voici le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Et bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Égypte, les partis d'opposition ont bien l'intention de braver aujourd'hui les interdits du pouvoir en place. Les frères musulmans, mais aussi les mouvements libéraux, appellent la population à manifester pour dénoncer la rétrocession de deux îles égyptiennes à l'Arabie Saoudite. Les autorités jouent une fois de plus la carte de l'intimidation. Pas question de laisser faire. Il en va, disent-elles, de la stabilité du pays. Au Caire, c'est une correspondance de François Umfer Kadadji.
L'État égyptien a demandé à l'armée de sortir de ses casernes. Le ministère de l'Intérieur a lui prévenu qu'il disperserait le rassemblement sans hésitation, c'est-à-dire en faisant usage de la force. Depuis deux jours, un vent de panique souffle sur le Caire. La police a procédé à 150 arrestations dans la rue, dans les cafés, en se rendant directement dans les appartements. Objectif, créer la peur et dissuader quiconque de se rendre dans la rue à l'occasion de ce jour férié, qui théoriquement célèbre la restitution de la péninsule du Sinaï à l'Égypte par Israël. The Big Pharaon est un blogueur et observateur de la vie politique égyptienne.
Je crois que ce que nous avons vu ces deux derniers jours, la police qui arrête des gens dans les cafés, à leur domicile, ça montre que le régime a peur. Ils savent qu'ils perdent en popularité, surtout à cause des problèmes économiques, mais aussi à cause du mécanisme et du timing de l'annonce sur les îles de la mer Rouge. Donc évidemment, le régime est effrayé par ce qui pourrait se passer. Il sait qu'il est vulnérable. Et personne, y compris les activistes, ne sait vraiment ce qui peut se passer aujourd'hui.
Mercredi dernier, un homme a été abattu par un policier en raison du prix d'un verre de thé. Il y a deux jours, un militant a été retrouvé, à la manière de l'étudiant italien Giulio Regeni, dans un fossé couvert de marques de torture. Il est actuellement en soins intensifs. La colère des Égyptiens est de plus en plus importante face à cette brutalité policière.
L'extrême droite aux portes du pouvoir en Autriche. Son candidat arrive en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Il affrontera le 22 mai prochain un candidat écologiste indépendant. Les partis traditionnels qui gouvernent en ce moment le pays ont été éliminés hier soir du jamais vu depuis 1945. La participation a été importante. Près de 70% des électeurs sont allés voter. Il y a 6 ans, cette participation ne dépassait pas les 50% du corps électoral. Et puis en Serbie, le premier ministre de centre droit remporte lui les élections législatives. Cette victoire va lui permettre de poursuivre notamment le rapprochement de son pays donc avec l'Union européenne. Son parti obtient plus de la moitié des sièges au Parlement. Les socialistes recueillent un peu plus de 12% des voix. L'extrême droite est elle créditée de 8% des suffrages. En France, Karine Daniel remplacera Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale. La candidate socialiste a remporté hier le second tour de la législative partielle organisée dans la 3e circonscription de la Loire-Atlantique. Elle obtient plus de 55% des voix contre 44,5% des suffrages à son challenger de droite, Mathieu Hanrot. Comme pour le premier tour, le scrutin a été marqué par un très fort taux d'abstention. Plus de 74% des électeurs ne se sont pas déplacés. Des mesures concrètes, notamment sur le dossier du nucléaire, voilà ce que réclament les ONG et les associations qui participent aujourd'hui et demain à l'Élysée, à la 4e et dernière conférence environnementale du quinquennat. Ce rendez-vous sera inauguré dans quelques instants par François Hollande, qui se rendra ensuite en Allemagne pour participer là-bas à un G5 informel à Hanovre. Sur place, les précisions de notre correspondant permanent Cyril Sauvageau.
C'est un G5 à huis clos qui se tiendra cet après-midi au château d'Herrenhausen à Hanovre. 1h30 d'échange et aucune déclaration prévue à la sortie. Il faut dire que les 5 dirigeants réunis en dernière minute à l'initiative d'Angela Merkel auraient bien du mal à adopter une position commune tant les sujets de crispation semblent nombreux. Premier point de blocage, le traité transatlantique dont les négociations reprennent aujourd'hui. La France est tellement réticente à poursuivre les pourparlers en l'état que François Hollande a fait savoir qu'il refuserait d'évoquer le sujet. Sur la crise ukrainienne, c'est l'Italien Matteo Renzi qui plaide pour un allègement des sanctions contre Moscou. Mais Barack Obama reste inflexible face à Vladimir Poutine. Le président américain va profiter de ce passage en Europe pour appeler ses partenaires de l'OTAN à un effort budgétaire jusqu'à 2% du PIB. Là, c'est l'Allemagne qui est montrée du doigt pour son retard en matière de défense. Il n'y a finalement que sur la guerre en Syrie que le G5 semble en mesure de parler d'une seule voix pour réclamer d'urgence un retour au cessez-le-feu.
La disparition d'un grand musicien africain considéré comme le roi de la rumba congolaise. Papa Wemba est mort à l'âge de 66 ans. Il s'est effondré sur scène à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors qu'il participait ce week-end au Festival des musiques urbaines. Il va pleuvoir sur le nord de la France, de l'Auvergne aux Alpes et au Jura. Le ciel sera chargé avec des averses de neige à partir de 700 mètres d'altitude. Sur la moitié sud, le soleil fera de belles apparitions. Les maximales côté température iront de 7 à 20 degrés en général.